Jacques Lascar, bonsoir.
Bonsoir.
Alors nous sommes heureux bien sûr de vous accueillir et on vous la première question qui nous vient à l'esprit, on parle de chaos. Le chaos a une origine grecque, on sait un peu ce que ça veut dire, mais est-ce que ça désigne forcément le désordre? En fait, les gens mettent un peu sous ce nom, ils mettent un peu ce qu'ils veulent intuitivement. Ça a peut-être une définition plus précise en science. En tout cas, c'est pas forcément du désordre, c'est peut-être lié à l'incertitude de nos connaissances. Qu'est-ce qu'on peut dire du chaos?
Ce qu'on peut préciser, c'est en fait ce qu'on appelle chaos dans le cadre des systèmes dynamiques. Et un système dynamique, c'est quoi? Ben, c'est un système quelconque, n'importe quoi, par exemple le mouvement, les planètes, mais qui est régi par une équation différentielle. Une équation différentielle, c'est une relation qui lie la vitesse et la position. Et en fait, ce qu'on appelle par chaos dans ce cadre-là, c'est pas du tout synonyme de mouvement aléatoire. C'est pas forcément un mouvement complètement désordonné. Mais c'est un mouvement très compliqué. C'est un mouvement très compliqué et dont le comportement ressemble à un jeu de pile ou face. C'est-à-dire que si on regarde son évolution, on a l'impression que c'est un jeu de pile ou face, donc quelque chose de totalement aléatoire.
Alors, l'image. Pardon.
Mais oui. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on peut se dire, ah oui, on a quelque chose de complètement aléatoire parce qu'on a beaucoup de paramètres. C'est ce que les gens croyaient au début. Mais en fait, c'est pas le cas non plus, parce qu'on peut avoir des systèmes très simples qui ont des mouvements chaotiques. Dès qu'on a, en fait, un système. Si on prend un système très simple qui est, par exemple, un pendule, donc une tige avec une petite masse au bout, et qu'on le fait osciller, là, et qu'on ne considère que l'angle d'oscillation, là, on a ce qu'on appelle un système à 1 degré de liberté, et ça, c'est régulier, c'est pas chaotique. Mais dès qu'on rajoute n'importe quelle perturbation extérieure, ou si on complique le pendule en mettant un pendule double, donc on prend une tige, et au bout de la première masse, on rajoute une deuxième tige avec un autre pendule, eh bien, on aura un pendule double, on aura donc deux angles, on aura 2 degrés de liberté, et là, on aura des mouvements chaotiques quelque part, disons qu'au voisinage des trajectoires instables. Alors, une trajectoire instable, dans le cas du pendule, elle se comprend bien. Si on a les oscillations ordinaires du pendule, donc ça, c'est stable, mais si on met le pendule verticalement au-dessus de son point de suspension, on voit bien que la position là, elle est très instable. Il faut presque rien pour passer d'un côté ou de l'autre. Une toute petite perturbation fait passer d'un côté ou de l'autre. Et c'est de là que viennent les instabilités dans ce type de mouvement. Donc si on a un mouvement avec ce pendule et puis qu'on a un degré de liberté supplémentaire qui va faire une petite perturbation au voisinage de cette trajectoire instable, eh bien, on aura à ce moment-là des indéterminations, disons qu'on aura une divergence exponentielle des trajectoires, on aura une indétermination des trajectoires dans le futur. Mais le système est parfaitement déterministe, il est régi par une équation différentielle, donc une relation précise. Si on se donne exactement les conditions initiales, on a une seule solution qui est parfaitement déterminée pour toute l'évolution future. Seulement, un tout petit changement au voisinage de cette solution qu'on se donne. Si on fait un écart d'un millionième de micron, au début, on a une trajectoire qui est bien celle qu'on attend, et puis après, elle va s'écarter largement de la première.
Donc un système chaotique, c'est un système qui a une extrême sensibilité à des conditions initiales.
Voilà. D'accord. Mais qui peut être très simple. Alors, dans le cas du système solaire, on a là un système plus compliqué qui est aussi chaotique. Donc c'est le mouvement des orbites. Alors ce qui compte beaucoup dans le chaos, c'est aussi l'échelle de temps sur laquelle se fait le chaos. Si je prends un crayon et que je le pose sur la pointe, j'ai un système chaotique à une échelle de temps, très courte. C'est-à-dire si je le laisse tomber, il ira d'un côté ou de l'autre et ça ira vite. Mais si je regarde dans le système solaire, cette échelle de temps, au lieu d'être de l'ordre de la seconde pour le crayon que je laisse tomber, ou de l'ordre de quelques jours pour le système de la météo, vous savez qu'on ne peut pas prévoir le climat, et on a le temps de manière précise, le temps qu'il fera, parce que là, l'échelle de temps du développement du chaos, c'est quelques jours, donc on sait qu'on n'arrivera jamais à prédire le climat, l'évolution du temps sur 15 jours.
Alors au niveau du système solaire, maintenant, pour revenir au sujet de votre conférence, quel type de perturbation peut rendre les planètes sujettes à une évolution chaotique ? Est-ce qu'il s'agit du passage d'une comète ou par exemple de l'interaction d'une planète à une autre ?
En fait, on n'a pas besoin d'objets extérieurs, on n'a pas besoin de perturbations aléatoires. Si le mouvement est chaotique, c'est pas parce qu'il y a plein de comètes qui ont des mouvements désordonnés qui viennent perturber le système. Si on prend juste un petit nombre de planètes, on a déjà des mouvements chaotiques. Alors dans le cas du système solaire, ce chaos se manifeste. Donc il faut déjà savoir un petit peu ce que c'est qu'une orbite de planète. Une orbite de planète, on apprend à l'école que c'est une ellipse autour du Soleil, où le Soleil occupe un foyer. Bon, ça c'est la vision de Kepler, c'est 1609. Mais en fait, la loi de Newton, la loi d'attraction universelle, nous dit que les planètes se perturbent entre elles. Et ça va être donc ces perturbations entre les planètes qui vont faire bouger les orbites. Donc déjà, ces ellipses, elles bougent. Elles précessent, donc elles tournent dans leur plan, le plan de l'orbite tourne dans l'espace. En même temps, la forme des orbites va changer, tantôt elles vont être plus allongées, tantôt elles vont être plus circulaires. Donc tout ça, ça bouge. C'est-à-dire que l'ellipse de Kepler fixe est valable juste pendant un temps très court. Mais tout ça, sur un million d'années, on va avoir des changements assez grands de la forme. On a des rotations des orbites. Et c'est ce mouvement... Alors ce sont des mouvements lents, cette déformation des orbites. C'est des mouvements très lents. Mais ce sont ces mouvements lents des orbites qui sont chaotiques. Et dans le cas de la Terre, le temps caractéristique de développement du chaos, c'est 5 millions d'années. Plus précisément, si je me donne une erreur initiale, donc un écart initial, mettons de 15 mètres, je multiplie par 10 l'erreur qui est faite tous les 10 millions d'années. Donc si on regarde au bout de 10 millions d'années, on aura une erreur de 150 mètres. Donc 150 mètres, c'est rien. Si on a une erreur de 150 mètres sur la position de la Terre, c'est vraiment rien. Mais au bout de 20 millions d'années, ça fait 1,5 km. Au bout de 30 millions d'années, ça fait 15 km. Et au bout de 100 millions d'années, ça fait 150 millions de kilomètres d'erreur.
C'est une évolution linéaire, alors ?
Non, c'est une évolution exponentielle.
D'accord. Hein,
c'est-à-dire qu'on multiplie, à chaque fois qu'on augmente de 10 millions d'années, donc à chaque fois qu'on augmente linéairement le temps, on multiplie l'erreur par 10. Donc pour 10 millions d'années de rajouter, on multiplie cette erreur par 10. Si bien que sur 10 millions d'années, on ne voyait pas l'erreur. 150 mètres, c'est rien. Mais sur 100 millions d'années, on a 150 millions de kilomètres d'erreur, c'est-à-dire la distance Terre-Soleil. Alors ça ne veut pas dire que la Terre vient cogner le Soleil ou qu'elle peut cogner le Soleil. Ça veut dire qu'on ne sait plus du tout comment est orientée l'orbite de la Terre. On a perdu l'angle d'orientation de l'orbite de la Terre. Et en même temps, comme en gros la forme des ellipses change en fonction de cette précession des orbites, on ne saura plus non plus quelle est, pour cette date donnée, on ne saura plus non plus quelle est exactement, si l'orbite est plutôt circulaire ou plutôt allongée. Ça, on ne pourra pas le savoir non plus. En même temps qu'on perdra cette information d'angle, d'orientation de l'orbite, on perdra aussi le fait de savoir si on est plutôt dans un moment où c'est circulaire ou plutôt allongé. Et ça, c'est important, par exemple, quand on regarde les climats du passé. Si on regarde les changements d'orbite de la Terre, ça, donc si on change l'orbite de la Terre, on va changer la quantité de soleil reçue à la surface de la Terre à un temps donné. Et en fait, le climat sur Terre, il va dépendre de deux choses. Il dépend déjà de l'orientation de l'axe de la Terre. Hein. Si on a des saisons, c'est pas parce qu'on est plus près du soleil en été. En fait, au contraire, on est au plus loin. Hein. On est au plus près du soleil le 4 janvier, c'est-à-dire en hiver. Mais ça dépend de l'inclinaison de l'axe de la Terre sur par rapport au plan de l'orbite de la Terre autour du Soleil. Et si en été il fait plus chaud, ben c'est parce que le Soleil est plus haut dans le ciel. Ça veut dire que on reçoit les rayons du Soleil plus perpendiculairement qu'en hiver. Ça c'est parce que l'axe de la Terre est incliné à 23 degrés. Donc le climat sur Terre va être influencé par l'orientation de l'axe de la Terre et par la forme de l'orbite de la Terre, et par la date à laquelle se produit, se font les changements de saison. Si par exemple on était au plus près du Soleil en été, on aurait un contraste, et au plus loin en hiver, on aurait un contraste de saison plus important que maintenant, où quand on est au plus près du Soleil, on est en hiver. Donc les effets, dans l'autre cas, seraient accentués. C'est ce qui se passera, par exemple, dans 13 000 ans. Disons que l'axe de la Terre, lui, tourne lentement dans le ciel. Ça, c'est la précession des équinoxes, et c'est ce qui fait changer cette date à laquelle se produisent les saisons. Dans 13 000 ans, on aura l'été au moment où on est le plus près du Soleil. Donc on aura un contraste de saison plus accentué. Et ces traces... Donc tout ça, aussi bien, en plus, l'axe de la Terre bouge à cause des interactions entre les planètes. Donc elles font bouger le plan de l'orbite de la Terre, comme elles font bouger la forme de l'orbite de la Terre, et ça fait bouger l'axe de l'orbite de la Terre. Et donc, c'est le mouvement des planètes qui est déterminant, de manière directe en changeant la forme de l'orbite de la Terre, ou de manière indirecte en changeant l'orientation, un tout petit peu, l'orientation de l'axe de la Terre, pour changer la répartition de la quantité de soleil reçue à un endroit donné à la surface de la Terre. Et ça va... Donc ces changements sont suffisants pour... on pense que c'est à l'origine, par exemple, des périodes glaciaires du quaternaire et des changements climatiques dans les derniers millions d'années. Et donc, on a des indicateurs, on a des traces de ces variations climatiques qui sont obtenues à travers soit des carottes de glace, soit des forages sédimentaires. On a des traces, on a des indicateurs. Et donc, on aimerait pouvoir utiliser la solution astronomique comme échelle de temps. On a une corrélation très forte entre le signal qu'on mesure et puis la variation d'insolation calculée. Et comme on voudrait pouvoir utiliser cette variation comme échelle de temps pour la géologie. Mais ça va être possible sur 10 millions d'années, sans problème, puisqu'on a une précision très grande, on pourrait avoir une précision très grande. Mais si on veut le faire sur 100 millions d'années, eh bien, comme ce mouvement est chaotique, ça dit que ça ne sera pas possible.
Alors à propos de l'axe de la Terre, vous avez mis en évidence un phénomène un peu inattendu, c'est que l'existence des saisons dont vous parlez, finalement, et si la Terre n'est pas couchée sur son orbite, autour du Soleil, c'est dû à l'existence d'un satellite naturel qui n'est ni plus ni moins que notre Lune.
Oui, alors ça c'est... Disons que j'ai dit que les planètes faisaient bouger un petit peu l'axe de la Terre. Effectivement, ça le fait bouger de tout petit peu, 1,5 degré autour de sa valeur moyenne. Et ça, c'est déjà suffisant pour entraîner les périodes glaciaires du quaternaire. Mais, disons que cette petite oscillation... Pourquoi on a juste une toute petite oscillation? On a une toute petite oscillation parce que le mouvement, donc l'axe de la Terre tout seul, avec juste la Lune et le Soleil, aurait un mouvement de précession, donc un mouvement de tournerait lentement, décrirait un cône, en 26 000 ans. Et l'axe, l'obliquité, c'est-à-dire l'inclinaison de l'axe de la Terre, ne bougerait pas. Mais le mouvement des planètes, ça fait bouger le plan de l'orbite de la Terre, et ça le fait bouger avec des périodes qui vont plutôt de l'ordre de 40 000 ans, à quelques millions d'années. Alors, ces périodes ne sont pas proches de cette période de 26 000 ans. Donc ça crée juste une petite oscillation supplémentaire de l'axe de la Terre. Mais si on enlevait la Lune, à ce moment-là, la Lune, c'est un effet de marée, ça exerce un effet de marée, c'est-à-dire que on sait bien quand on voit les grandes marées et les petites marées que... Pourquoi on a des grandes marées, pourquoi on a des petites marées? Parce qu'on a à la fois l'effet de la Lune et du Soleil. L'effet de marée, c'est 2/3 dû à la Lune, 1/3 dû au Soleil. Et c'est ce même effet qui fait tourner l'axe de la Terre. Si on enlève la Lune, on enlève les 2/3 de l'effet, il ne reste plus qu'un tiers. Donc au lieu de tourner en 26 000 ans, on tournera en 75 000 ans. Et à ce moment-là, on sera en résonance avec l'excitation du au mouvement des planètes. Et quand on a, c'est dans ce cas-là, on a un mouvement chaotique, très fort parce qu'on a recouvrement de plein de résonances. On n'a pas une seule résonance, mais on a plein de résonances avec toutes ces excitations de toutes les planètes. Et ça crée ici un autre type de mouvement chaotique, qui est un mouvement chaotique de forte amplitude. C'est-à-dire non seulement on ne sait plus comment est orienté l'axe de la Terre, disons que son angle de précession, mais on ne sait plus non plus quelle est son orientation par rapport à l'orbite de la Terre. Il pourra valoir n'importe quoi entre 0 et 90 degrés. Alors c'est pas, elle ne va pas aller forcément à 90 degrés, mais elle peut aller à 90 degrés, en tout cas elle restera jamais dans une position constante ou à peu près constante comme c'est le cas maintenant.
Alors, j'avais une petite question un peu épistémologique en fait. À la fin du 17e, donc Newton dans ses Principia donne les lois du mouvement et de l'attraction planétaire. Et puis par la suite, on se rend compte que ça marche bien pour deux corps, trois corps, c'est bien un petit peu difficile. Et il y a ensuite tout un tas de gens qui arrivent, Clairaut, Laplace, Lagrange, et qui appliquent en fait votre méthode, qui est la méthode des perturbations. Qu'est-ce que vous apportez en plus maintenant ?
En fait, ce qu'a fait Laplace et Lagrange ont fait deux choses. Hein. Ils ont vraiment montré que la loi Newton rendait bien compte du mouvement des planètes. Et donc ça, ils arrivaient à montrer que la loi de Newton suffisait à retrouver toutes les observations anciennes, par exemple jusqu'aux observations des Grecs, des Chaldéens. Donc on retrouvait toute l'histoire à partir uniquement de la détermination des conditions initiales. Donc on avait une équation différentielle qui relie la vitesse et les positions, qui permet de, à partir des données de l'instant, de retrouver tout le passé et donc, pensait-il, de prédire tout le futur. Donc ça, c'est le déterminisme de Laplace. Et en même temps, ils avaient regardé l'évolution à long terme du mouvement, donc l'évolution, le problème de la stabilité du système solaire, et ils avaient montré que les tailles des orbites en moyenne ne bougent pas, donc on n'a pas gonflement d'une orbite. Le problème, c'est est-ce que des orbites peuvent se cogner, se croiser. Ils ont montré, donc il n'y en a pas dès qu'ils diminuent ni dès qu'ils augmentent. Et ils avaient montré aussi que les formes des orbites bougeaient, mais de manière régulière. Donc dans ce contexte, on n'a jamais de collision et les mouvements sont toujours réguliers, donc on peut les prédire sur un temps le plus grand possible, à condition, bien sûr, d'avoir des conditions initiales bien déterminées. Mais quand ils avaient fait ce calcul, c'est pas un calcul rigoureux, c'est un calcul qui a été fait en faisant des approximations. Et ils avaient pris, en fait, disons d'une manière simple, on peut dire qu'ils avaient juste gardé les tout premiers termes, donc la partie linéaire du mouvement. Mais en fait, ils avaient fait une approximation linéaire sur ces équations. Et là, ce qu'on prend vraiment en compte, c'est tout ce qui a été négligé. Donc c'est les équations Newton complètes. Eux, en gros, ils avaient fait une approximation dans ces équations Newton. Et c'est cette partie négligée qui vient perturber le système et introduire ces mouvements chaotiques. Et donc ce qu'on sait, même génériquement, pour un système dynamique quelconque, on sait que le comportement normal est plutôt d'avoir des mouvements chaotiques. Mais ce qu'on sait aussi, c'est que si on a des valeurs, en gros, de paramètres suffisamment petits, tous les mouvements sont réguliers, ou plutôt la majorité des mouvements sont réguliers. Donc dans le cas du système solaire, ça aurait pu vouloir dire que si les masses des planètes sont petites, suffisamment petites, si leurs excentricités, c'est-à-dire si les orbites sont suffisamment circulaires, alors on a plein de mouvements réguliers du même type que ceux de Laplace. Mais... Et le calcul, là, montre en fait qu'il n'en est rien. Qu'on n'est pas dans ce cadre-là et qu'on a ces mouvements chaotiques.
Mais donc votre cadre de pensée, c'est la théorie Newton.
C'est la théorie Newton, oui.
Et la relativité.
La relativité dans ce cadre-là, elle est incluse, mais elle n'ajoute qu'une petite correction qui n'est pas fondamentale en fait pour la compréhension du problème. Ça rajoute, disons que c'est bien connu que, quand on pense à la relativité, au mouvement des planètes, on sait bien que la relativité induit un 0,4 secondes par an, ou 40 secondes par siècle, dans le périhélie de Mercure, d'avance dans le périhélie de Mercure. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que ça, c'est qu'une petite partie. Si on prend le périhélie de Mercure, il va avancer de 5 secondes par an, c'est-à-dire 10 fois plus, à peu près, dû aux perturbations planétaires, aux perturbations des autres planètes. Mais cette donc c'est alors là il faut souligner quand même que les toutes petites quantités que sont capables de voir les astronomes, parce que Le Verrier, quand il avait calculé le premier, donc dans les en 1856, l'évolution à long terme pour l'ensemble des planètes en reprenant la théorie de Laplace, il avait, et quand il comparait après aux observations, il avait trouvé qu'il y avait un écart de 38 secondes par siècle. Alors, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est qu'une seconde d'arc. Un degré, bon, tout le monde sait, parce que je parle de secondes, ce sont des secondes d'arc. Un degré, donc on sait à peu près ce que c'est, on a déjà vu des rapporteurs. Une minute, alors j'ai regardé dernièrement, une minute, c'est 3 cm placé à 100 mètres, si je ne me trompe pas. Ça fait une minute d'arc. Et une seconde, donc c'est 60 fois plus petit. Donc là, c'est cette observation qu'il y a 0,4 secondes par an de décalage dans le périhélie de Mercure. Hein, et ça avait été fait par Le Verrier. Donc c'est cet écart qui a été expliqué ensuite par la relativité. Mais bon, ça ne vient que corriger un tout petit peu ces mouvements de précession des orbites planétaires qui sont essentiellement dus aux interactions gravitationnelles de Newton.
Pour conclure, Jacques Lascar, vous êtes originaire de Nantes, il me semble. Avez-vous connu la Société d'astronomie de Nantes dans ses débuts, en 1971, et l'avez-vous fréquenté avant de partir, pour vos raisons professionnelles, sur Meudon ?
Alors, en fait, en 1971, au moment de la création de la société, j'ai assisté en fait au muséum, puisque je crois que la réunion avait lieu au muséum. Il y avait la réunion qui a été à la création de la Société d'astronomie de Nantes. Et effectivement, moi j'étais lycéen à l'époque, au lycée Clémenceau à Nantes, et j'étais venu parce que bon, j'étais intéressé par l'astronomie en amateur, et il n'y avait rien du tout sur Nantes. J'avais cherché à l'époque, il n'y avait rien du tout sur Nantes. On avait fait des petits clubs qui permettaient donc aux amateurs de se rassembler. Et je suis très heureux de voir que maintenant, c'est une des sociétés d'astronomie d'amateurs les plus actives en France.
Eh bien, Jacques Lascar, on vous remercie beaucoup. Et puis, on a pu tout ce qu'à vous souhaiter au nom de la SAN, de bonnes recherches et bonne continuation dans vos études. Merci.